éviter la guerre. C'est à cette fin que l'OTAN a été créée il y a 75 ans. 75 ans d'histoire européenne sans guerre. C'est le signe ultime que l'Alliance fonctionne. Mais le 24 février 2022 marque un tournant historique. La Russie lance une offensive contre l'Ukraine. La guerre est de retour en Europe. L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Pourtant, on s'interroge quant à la capacité de défense de l'organisation. Quelle est la force de l'Alliance occidentale aujourd'hui? Les partenaires européens présentent justement de grandes faiblesses.
La sécurité européenne dépend quasiment à 90% des États-Unis.
Ces 27 armées sont incapables d'accomplir seules des missions de moyenne envergure.
Ce film donne la parole à ceux pour qui l'OTAN n'a plus de secrets.
On ne peut pas garantir d'être capable de protéger Munich, Francfort et Berlin. Ce n'est pas possible.
Bâti sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale, l'OTAN réussit l'impossible. Avec le temps, elle transforme les ennemis en partenaires.
Je trouve ça fascinant. Au commandement de l'OTAN, il y avait aussi des officiers allemands qui avaient combattu les Américains et les Britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale.
75 ans après sa création, l'OTAN joue un rôle croissant que personne n'aurait pensé lui confier depuis la guerre froide. Le monde se réarme.
Non seulement la Russie, mais aussi la Chine, par exemple, ou encore le Proche-Orient. L'Arabie Saoudite a triplé ses effectifs au sol depuis 2010.
Et qu'en est-il de l'OTAN?
On a pris des vacances loin de la réalité. Et maintenant, on en paye les conséquences.
Il que se trouve un des bâtiments les mieux gardés au monde. Le QG militaire de l'OTAN. Le grand quartier général des puissances alliées en Europe, ou SHAPE. Toutes les informations importantes y convergent 24 heures sur 24. Que se passe-t-il aux frontières de l'Alliance défensive? Dans quelle partie du monde s'opèrent des mouvements suspects?
L'Alliance existe depuis 75 ans. Nous sommes passés de 12 membres à presque 32. Cela prouve la valeur de l'Alliance. Sinon, autant de pays ne l'auraient pas rejointe.
Constituée de 12 pays. Son objectif pendant la guerre froide est d'endiguer l'expansion du communisme. L'Union soviétique et le Bloc de l'Est ne doivent pas étendre leur sphère d'influence. Au fil du temps, 20 nouveaux pays ont intégré l'OTAN, dont d'anciens pays du Bloc de l'Est. Aujourd'hui, l'Alliance s'étend de l'océan Arctique au nord jusqu'à la frontière entre la Turquie et la Syrie au sud-est et des pays baltes, frontaliers de la Russie, jusqu'à la frontière ouest du Canada et des États-Unis. Grande alliance défensive au monde. Plus d'un milliard de personnes comptent sur sa protection. Pourtant, elle ne dispose pas de troupes propres.
L'OTAN a été construite autour de trois concepts fondamentaux. Le commandement et le contrôle, la standardisation et les exercices militaires. Les troupes viennent des pays de l'Alliance, les États souverains, tous les 31 qui seront bientôt 32. Donc à partir du moment où les pays envoient leurs troupes à l'OTAN pour un exercice, une opération militaire ou pour la défense collective, c'est le commandant suprême des forces alliées en Europe, le général Cavoli, qui dirige ses troupes. Il peut les utiliser dans le cadre de la mission qui lui a été confiée.
L'expérience traumatique de la Seconde Guerre mondiale est dans tous les esprits lors de la création de l'OTAN.
Pour moi, il est essentiel de se rappeler que l'OTAN a été fondée juste après la Seconde Guerre mondiale. La guerre et la destruction étaient ancrées dans l'esprit de tous les décisionnaires. Beaucoup de ces hommes, car au début de l'histoire de l'OTAN, il ne s'agissait presque que d'hommes, avaient combattu pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, ou bien ils y avaient joué un rôle. L'une des raisons de la fondation de l'OTAN était de s'assurer qu'il n'y aurait plus de guerre. Beaucoup de ses créateurs pensaient que grâce à l'OTAN, ils pourraient éviter un retour de la guerre en Europe.
L'OTAN n'est dotée d'aucune structure militaire ni d'aucun centre de commandement. À ses débuts, l'Alliance est avant tout une promesse.
Il faut se rendre compte que lorsque le traité est signé en 1949, c'est un traité symbolique. Un symbole politique, celui de 12 États qui veulent se protéger mutuellement et travailler ensemble.
Le 4 avril 1949, des chefs de gouvernement, des ministres des Affaires étrangères et des hauts diplomates de 12 pays différents se retrouvent à Washington pour signer le traité de l'Atlantique Nord. À l'époque, il comporte 14 articles seulement. Plus tard, en août 1949, l'Union soviétique fait exploser sa première bombe nucléaire. Le monopole atomique des États-Unis est brisé et la course à l'armement lancée. L'Union soviétique devient l'ennemi numéro un. La moindre provocation peut désormais signer la fin du monde, au sens littéral du terme. La grande crainte des fondateurs de l'OTAN n'est pas une attaque directe de l'Union soviétique, mais ce que l'historien canadien Timothy Andrews Sale appelle la faiblesse de la démocratie.
L'inquiétude principale à la fin des années 1940, c'est qu'après l'expérience traumatisante et dévastatrice qu'a été la Seconde Guerre mondiale pour les Européens, ils ne veulent plus se battre pour leur pays à l'avenir. Dans ce cas-là, si l'Union soviétique venait à mobiliser ses armées, à effectuer des exercices militaires ou à faire une démonstration de force, les Européens peut-être demanderaient à leurs dirigeants de céder aux exigences soviétiques.
De pertes liées à la Seconde Guerre mondiale hantent encore les esprits. Selon l'historien, les démocraties sont vulnérables au chantage, car elles s'efforcent de préserver la paix à tout prix. Elles ont tendance à proposer des compromis et à céder.
En faisant partie de l'OTAN, de cette alliance, les dirigeants pouvaient dire à leur peuple « Nous faisons partie d'un tout ». Au lendemain de la guerre, quand les dirigeants pensaient que leur peuple ne voudrait plus jamais combattre, c'était important de leur montrer cette force commune.
Qui nécessitait des forces armées et des unités de taille restreinte, mobiles, qui ont été déployées pour des tâches très spécifiques.
Lors d'une gestion de crise, le temps est de notre côté. C'est nous qui décidons. Est-ce qu'on va en Afghanistan, quand, avec combien de troupes et pendant combien de temps? Mais quand il s'agit de défense collective, on pourrait se faire attaquer par l'ennemi. Et là, soit on est prêt, soit on ne l'est pas.
Aujourd'hui, l'Alliance montre des signes de faiblesse. Un des problèmes majeurs est que l'OTAN est passé à 32 pays depuis sa création. 32 États souverains, 32 armées et autant de bureaucratie. Mobiliser et déployer des troupes rapidement peut s'avérer décisif dans un contexte de guerre. Or, en Europe, c'est devenu un véritable tour de force administratif, malgré l'UE et l'espace Schengen.
A occupé un camion de pommes de la Pologne jusqu'au Portugal en conduisant sans interruption. Quand il s'agit de l'armée, je ne peux pas faire ça. J'avais des troupes qui étaient stationnées dans les pays baltes et en Pologne. Je me suis rendu compte que le niveau de maintenance des hélicoptères de l'unité d'aviation se détériorait. J'ai posé la question au commandant de la brigade aérienne qui vient d'Ansbach. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas réparés? Qu'est-ce qui prend autant de temps? Monsieur, on ne peut pas envoyer les pièces depuis Ansbach jusqu'à l'île Vardée. Ça prendrait des semaines. J'ai dit quoi? J'étais naïf. Je pensais que faire la route entre Ansbach et l'île Vardée serait comme de prendre l'autoroute Interstate 95 entre la Floride et la Virginie. Ce sont tous des pays de l'OTAN et de l'UE. Quel est le souci? C'est là qu'on a compris que le transport d'équipements militaires entre les différents pays posait problème. On avait besoin d'un permis.
Consciente du problème.
Fédérale. Il faut réussir à rallier des États membres ayant des gouvernements différents. Il y a des formulaires différents d'une nation à l'autre. Mais c'est un problème auquel on essaie de remédier. Ils doivent être remplis de manière très précise. Il faut aussi tenir compte des formalités douanières, par exemple, ou encore de la prévention des maladies animales.
Pour déplacer des tanks à travers l'Allemagne, il faut les mettre dans un train ou bien à l'arrière de l'un de ces gros camions. Nous n'avons pas assez de camions pour pouvoir transporter des tanks. Nous avons donc besoin de la Deutsche Bahn. Mais en temps de paix, on ne peut pas demander à la Deutsche Bahn d'arrêter son activité pour transporter des tanks. C'est un procédé long et compliqué qui n'est pas très sexy.
Seront acheminés en train jusqu'en Lituanie. Le trajet jusqu'à la gare doit être parfaitement coordonné. L'itinéraire emprunte l'autoroute. La fenêtre de tir pour aller de la caserne à la gare est étroite et calculée avec précision. La manœuvre doit impérativement être terminée avant l'heure de pointe. Durant ces dernières décennies de paix, partout en Europe, les ingénieurs chargés de construire des ponts se sont peu souciés de leur résistance au passage des engins militaires. Les chars doivent rouler à distance et passer un par un pour pouvoir franchir le fleuve.
Tous les Allemands de notre âge se souviennent du panneau jaune qu'on trouve encore à l'ouest de l'Allemagne, celui qui donne le poids autorisé. Ce pont peut supporter... On les trouvait partout en Allemagne de l'Ouest, plus à l'Est. Il n'existe pas.
Déployé sur le flanc Est, en Lituanie, emporte son propre arsenal. C'est l'occasion de répéter le déroulé des opérations et d'assimiler les manœuvres.
Véhicule, ses défauts et ses qualités. L'entreprise qui gère les chars s'occupe spécifiquement d'apporter des pièces de rechange pour nos véhicules. Mes coéquipiers sont chargés de conduire les chars de la rotation précédente. Notre char, c'est un peu comme notre voiture personnelle. On l'emmène partout et on ne le prête jamais.
Dulm a pour objectif de créer une sorte de Schengen militaire. Cela permettrait à l'avenir de déployer 100 000 hommes en 10 jours. Il faut 2 semaines pour déployer moitié moins d'hommes. Mais les troupes ne sont pas le seul souci.
On s'est aperçu qu'une guerre terrestre consommait énormément de ressources. Tous les pays qui soutiennent l'Ukraine peinent vraiment à produire suffisamment de munitions. Ils ont fait leur fond de tiroir et ont épuisé leur stock.
Selon certains calculs, 50 000 tirs d'artillerie seraient effectués en moyenne quotidiennement dans le cadre du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Mais ces munitions, il faut les produire pour les avoir sous la main. Il faut faire en sorte que les munitions allemandes soient compatibles avec les canons néerlandais. Ensuite, il faut les répartir de manière judicieuse dans des dépôts en Europe, en espérant que l'on n'en ait jamais besoin, bien sûr. Mais c'est la clé d'une dissuasion crédible. La dissuasion ne fonctionne que si nos plans et nos stratégies sont crédibles, et donc s'ils sont efficaces en cas d'agression. La seule manière d'éviter ce qu'on veut tous éviter, à savoir une guerre, c'est d'avoir une dissuasion crédible. Ça implique, par exemple, de réussir à transférer de grands corps de troupes en temps de paix avant même que le premier coup de feu ne soit tiré. Ça envoie un message clair. Méfiez-vous, vous n'avez pas gagné.
Général de l'OTAN à Bruxelles. C'est ici que sont prises toutes les décisions politiques. Lorsqu'un pays membre est attaqué, c'est ici que l'on décide si l'article 5 doit être invoqué.
L'article 5 du traité de l'OTAN est bien sûr le plus connu des articles du traité de Washington. Une attaque contre l'un sera considérée comme une attaque contre tous. Tout le monde connaît l'article 5. Mais il ne s'agit pas d'un faisceau laser automatique comme sur les portes des magasins. Il n'y a pas de déclencheur automatique pour l'article 5.
Lors du processus de consultation, tous les pays de l'Alliance doivent s'entendre pour accepter l'article 5, l'envisager officiellement et l'appliquer.
La clause de défense mutuelle est une décision qui doit être prise à l'unanimité. En Allemagne ou aux États-Unis, les interventions militaires doivent également être approuvées par le Parlement.
Souvenez-vous, l'an dernier, un missile a atterri en Pologne et tué deux Polonais. Si c'était automatique, quelqu'un aurait pu dire « Un missile russe frappe la Pologne, article 5 ». Mais bien sûr, les personnes concernées par ce procédé sont assez matures pour dire « Attendez une minute, il faut qu'on vérifie ce qui s'est passé ».
Au début, les Anglais, les Français et les Canadiens espéraient que l'article 5 puisse forcer les autres alliés à se battre pour défendre l'un d'entre eux. C'est ce qu'ils voulaient que l'article 5 stipule. Mais les États-Unis n'étaient pas d'accord, car ça privait le Congrès du pouvoir de déclarer la guerre.
Problème, plus il y a de pays, plus il y a de conflits d'intérêts. Si un seul pays refuse de donner son accord, l'article 5 ne peut pas entrer en vigueur.
Nous avons 3,2 millions de soldats qui attendent des ordres. Il ne suffit pas de dire non. Lors d'une guerre ou d'une crise, en cas d'attaque, on peut dire non, on sera quand même attaqué. On aura quand même besoin d'une solution. Si un pays dit non, alors ce que nous attendons de ce pays, c'est qu'il nous propose un oui alternatif.
Les pays de l'OTAN peuvent opter pour une abstention constructive. Dans ce cas, la clause de défense s'applique malgré tout, même sans l'accord de tous. Seul le vote contre constitue un véritable obstacle.
En cas d'attaque, si une nation dit « nous refusons d'invoquer l'article 5 », alors les autres nations peuvent toujours décider d'agir de façon multilatérale. Mais comme ça ne sera pas encadré par l'OTAN, ça posera un problème.
Principe fondamental de l'OTAN, la communauté et la solidarité.
Dans les années 1950 et au début des années 1960, un vrai effort a été fait pour créer du lien entre les peuples des pays membres de l'OTAN. Des initiatives comme les échanges éducatifs, les voyages scolaires et les associations professionnelles étaient considérées comme très importantes pour construire de la solidarité dans l'Alliance. Beaucoup d'officiels américains ont passé beaucoup de temps à réfléchir à la construction de ces relations, pas seulement entre les dirigeants, mais aussi entre les citoyens.
La création de l'OTAN. Ces films éducatifs de l'ère de la prémondialisation sont réalisés à la demande du service de presse de l'OTAN. À l'écran, aucune arme ni exercice militaire. Les différents pays membres sont présentés avec leurs traditions et leur culture. Les films ne sont pas destinés au grand public. Ils sont montrés aux soldats qui s'apprêtent à partir pour un État membre afin de les préparer à leur mission. Qui sont les autres? Qu'est-ce qui nous attend là-bas?
C'est fascinant. Au commandement de l'OTAN, il y avait aussi des officiers allemands qui s'étaient battus contre les Américains et les Britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale.
55, 10 ans à peine après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la République fédérale d'Allemagne intègre l'OTAN. En dépit de la communauté, la peur d'être abandonné par ses alliés en cas d'agression est une peur aussi vieille que l'OTAN elle-même.
Cette idée que peut-être certains des alliés refuseraient de participer à la guerre était constamment à l'esprit des dirigeants pendant la guerre froide. Est-ce que les États-Unis défendraient vraiment l'Europe de l'Ouest si, en réponse, l'Union soviétique envoyait des missiles nucléaires sur les États-Unis? À partir de la fin des années 1950, ce numéro d'équilibriste est devenu très difficile.
Dès l'année de l'adhésion de la RFA à l'OTAN, le chancelier Konrad Adenauer demande une expertise juridique. Il s'interroge. Dans quelle mesure l'article 5 est-il coercitif? Les pays disposent également d'un droit de décision.
Quand on lit l'article 5, on se dit de prime abord, si j'attaque un pays de l'OTAN, les 31 autres vont me tomber dessus. Mais si on y prête un peu plus attention, on y lit que les membres promettent seulement de considérer toute attaque comme une agression envers eux-mêmes. Rien ne stipule que je dois envoyer des chars et des avions. Je peux très bien dire que je considère ça comme une agression, mais que je n'y réponds pas.
L'une des raisons pour lesquelles il était si important d'avoir des troupes américaines, anglaises et canadiennes en Europe, c'est qu'elles agissaient en quelque sorte comme un déclencheur de l'article 5 pour que les autres alliés viennent en aide aux Européens, et particulièrement à l'Allemagne, si la République fédérale était attaquée. C'était un signal politique très fort, parce qu'aucun dirigeant américain ne laisserait des troupes américaines être mêlées à une guerre ou à un conflit sans que la totalité du pouvoir militaire des États-Unis ne rejoigne la bataille.
Les forces armées russes et biélorusses sont moins importantes qu'avant la guerre en Ukraine. De nombreuses troupes ont été redéployées en Ukraine. On peut donc objectivement dire que, pour le moment, aucune menace grave ne pèse sur nous.
Si la Lituanie se faisait attaquer, il ne s'agirait pas uniquement de la Lituanie, mais aussi de nos soldats qui y travaillent. Même si pour le public ce serait vu autrement que si ça se passait aux Pays-Bas ou en Allemagne, ce sont quand même nos soldats sur place qui se feraient attaquer.
C'est ce même principe qui importait tant à Konrad Adenauer. Ce n'est pas tant le célèbre article 5 que les coalitions internationales qui garantissent la sécurité.
Les forces de la Bundeswehr sont mobilisées ici par l'OTAN pour intervenir si nécessaire. Mais elles sont aussi là pour montrer à la population lituanienne, regardez, on est là.